Avec Marie-Andrée Lamontagne. Merci de vous être déplacée pour cette première rencontre de la saison printemps-hiver 2020. On est très, très heureux de commencer ça avec Madame Lamontagne et sa biographie Anne Hébert, Vivre pour écrire. Donc, j'ai commencé avec une petite présentation de Marie-Andrée. Donc, Marie-Andrée Lamontagne est écrivaine, éditrice et journaliste. Elle est également directrice générale, programmation et communication du Festival littéraire international de Montréal, Métropolis Bleue. Elle a fait paraître des romans, dont L'homme au traîneau chez Leméac, des essais, dont Montréal la créative chez Autrement et Inutrope, ainsi que des textes de fiction, de critique et de poésie dans diverses revues littéraires comme Liberté et L'Inconvénient. De 1998 à 2003, elle a également dirigé les pages culturelles du Devoir. Elle s'est donc servie de ses multiples cordes à son arc pour écrire la très intéressante et très éclairante biographie Anne Hébert, Vivre pour écrire. Donc, bonjour Madame Lamontagne.
Bonjour, bonjour, je suis très contente d'être là.
Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ma première question est assez de base, mais elle me semble quand même intéressante. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire cette biographie sur Anne Hébert?
Ah, ben, c'est une question fondamentale. Voilà. Elle est plus que de base, c'est le moteur. Hein. C'est important parce que faire cette biographie, écrire cette biographie, je le dis en toute modestie, hein, c'est 10 années de recherche, puis 5 années... d'écriture, donc il fallait un moteur qui tienne la route pendant toutes ces années-là. Je ne le soupçonnais pas au départ, ce serait hallucinant, j'ajoute aussitôt, mais je me disais 3 ou 4 ans normalement pour faire un livre, si on travaille bien, je devrais y arriver.
Finalement 15,
mais ça tient au sujet, ça tient à toutes sortes de choses que je pourrais vous expliquer dans un instant, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, du coup, ça remonte en fait à l'adolescence. C'est pas très original parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent, des lecteurs, des lectrices qui ont eu le choc de la lecture d'Anne Hébert à l'adolescence. Ça a été mon cas, moi, par la poésie notamment. Et puis par la suite, je l'ai toujours suivie comme auteur, je la lisais. Puis, mais à l'adolescence, ça résonnait fortement parce que l'adolescence, comme vous le savez, vous vous en souviendrez tous, c'est pas l'époque des demi-mesures. Donc, il y avait chez Anne Hébert un appel à l'absolu. En tout cas, je devinais, moi, quelque chose d'absolu, quelque chose de profond aussi, à la fois élevé et profond, et qui résonnait fortement. Les années passent, bon, je continue de lire Anne Hébert, je continue, l'intensité diminue un peu, parce qu'on ne peut pas toujours être dans l'intensité adolescente, mais je continue de la lire, je continue de m'y intéresser. Je ne connais pas Anne Hébert, je ne l'ai jamais rencontrée. Sauf dans une certaine circonstance que je raconte dans la biographie vers la fin, c'est le seul moment où je me permets d'apparaître, et c'est, la biographie est terminée à ce moment-là. Et donc j'étais jeune femme, et puis je travaillais à ce moment-là à Paris avec mon petit garçon, et puis après je suis revenue ici. Alors, je vais quand même aller dans l'ordre. À ce moment-là, parce que tout ça va aboutir à la réponse. À ce moment-là, je travaillais au service, j'avais été embauchée comme petite main au service culturel de la délégation du Québec à Paris. Et donc, petite main, c'est-à-dire que je remplaçais quelqu'un à pied levé qui avait fait une chute dans le métro. Bon, et ça me plaisait beaucoup parce que c'était la culture et tout. Et à un moment donné, il y a eu un récital des poèmes d'Anne Hébert mis en musique. Et donc, je me suis retrouvée à installer la salle, il fallait que je trouve un banc de piano de concert, bon, ce genre de choses. Et puis, le récital, bien sûr, je voulais y assister. J'étais toute heureuse à l'idée de voir celle que je n'appelais pas mon idole, parce que ça aurait été galvaudé le terme. C'était une admiration profonde. Et puis, finalement, au début de la représentation, on dit, celui qui organisait, dit, ben, Madame Hébert vous prie de l'excuser, elle ne sera pas là, et tout le monde comprend, parce qu'elle n'aimait pas les apparitions publiques. Moi, j'étais avec mon petit garçon de 3 ans, qui tout à coup, après passer la première demi-heure où il écoutait attentivement, après il a voulu remuer. Alors là, je suis partie avec lui, on est allé dans la coulisse, et puis là, je suis tombée sur Anne Hébert, qui était là, qui avait choisi d'écouter le récital, mais découler de la coulisse, pour ne pas mettre un obstacle, mettons, ou interférer entre les poèmes, entre la musique et entre sa personne. Et moi, j'étais saisie, je ne lui ai surtout pas parlé, j'ai j'ai retraité avec mon petit garçon. Mais je me disais, voilà une leçon, parce que voilà une femme qui a une conception de la littérature qui est très, très élevée et qui va jusqu'au bout de ses convictions, qui, par exemple, sa conviction, c'est que un écrivain met tout dans ses livres, donc n'a pas besoin de s'expliquer, idéalement de donner des entrevues. Elle détestait les entrevues. L'œuvre suffit. Et donc, ça suffit tellement que quand on met ses poèmes en musique en même temps qu'elle est honorée, ben, elle se met en retrait, puis elle ne veut surtout pas attirer l'attention sur sa personne. 20 années passent, je suis à Montréal, Anne Hébert meurt, je suis journaliste à ce moment-là, je dirige les pages culturelles du Devoir. Et pendant toutes ces années-là, moi, je savais que je serais écrivain. C'était ma conviction profonde que j'allais le devenir. Mais je me posais cette question, comment vivre et écrire? Et voilà le moteur. Comment vivre et écrire? Comment combiner les deux? Parce qu'un écrivain n'écrit pas seulement quand il écrit. Il écrit tout le temps, en fait, dans sa manière d'être au monde, d'être en relation avec les gens. Et il m'a semblé, à ce moment-là, à la mort d'Anne Hébert qui m'a remué, comme beaucoup de gens, que je pourrais peut-être trouver une réponse chez Anne Hébert en écrivant sa vie. Comment elle avait-elle répondu à cette question? Parce que ça me paraît une question que se pose tout écrivain. Et donc, en racontant sa vie, peut-être que j'aurais des éléments de réponse. Et voilà ce qui m'a tenu pendant 15 ans, le petit moteur qui a fait fonctionner l'affaire. Donc, c'est une longue réponse, mais c'est une longue période de ma vie. Et puis, je pense qu'il fallait un moteur sur le long cours, en fait, pour y arriver.
Et justement, vous l'avez dit, Anne Hébert n'aimait pas beaucoup les entrevues. On sent dans votre anecdote aussi qu'elle était une personne assez privée. Et il n'y avait pas de biographie sur elle avant celle-ci. C'est vraiment la première, ce qui est très étonnant, étant donné que c'est une figure très importante de la littérature québécoise. Donc j'imagine que la recherche a dû être difficile. Ça ne peut pas avoir été facile de trouver des informations sur sa vie personnelle, sur sa jeunesse, par exemple.
Oui, ben ça c'est là que le fait, vous avez dit au début que j'avais plusieurs cordes à mon arc professionnel. En toute modestie, encore une fois, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'édition, je travaille toujours dans l'édition, le journalisme. Donc ces facettes-là m'ont permis de conjuguer de différents éléments. Par exemple, dans une biographie, il y a quelque chose, dans le travail de la recherche, il y a quelque chose de l'enquête journalistique. Un journaliste, un bon journaliste, doit toujours recouper les sources, et c'est du travail de longue haleine, à la différence du journalisme qui est souvent dans l'urgence, par définition. Ça a été difficile, ça a été long surtout, mais le temps est un allié de ce genre de travail. Le temps est un allié, à mon avis, de la littérature, de tous ceux qui écrivent, et de ce type de travail aussi, parce que s'il n'y avait pas de biographie jusqu'à présent, c'est parce que Anne Hébert elle-même décourageait toute tentative de vouloir connaître sa vie privée. Il y a des kilomètres de commentaires sur son œuvre qui sont nécessaires, des commentaires savants ou journalistiques, mais de biographie au sens fort du terme, il n'y en avait pas en effet. Parce qu'elle s'y serait refusée de son vivant, puis elle aurait probablement voulu entraver et décourager ce genre d'initiative. Et ses amis très proches avaient d'ailleurs la consigne de ne pas se répandre en confidence, parce qu'elle est devenue un personnage public assez tôt, hein, les années 70, même les années 60, elle a été bien accueillie, son œuvre bien accueillie, puis à partir de là, elle fascinait. Le fait qu'elle ait vécu en France aussi, tout ça attisait la curiosité du public et sa discrétion, sa réserve. Moi, j'emploie le mot pudeur. Ce n'est pas une femme secrète, c'est une femme pudique. Donc, c'est pas spécialement parce qu'elle aurait eu des choses à cacher. C'est qu'elle est d'une époque, d'un milieu où la frontière entre la vie privée et la vie publique était très nettement marquée et devait le demeurer. Et donc, après, l'époque a changé, évidemment. Pour le meilleur et pour le pire, mais elle était restée avec cette idée et donc elle ne se répandait pas en confidence. Elle détestait les entrevues. Au début, elle a pu accorder des entrevues, je dirais, de manière candide, et en dire, se laisser aller par des, en répondant à des questions, à donner des détails d'ordre biographique. Mais elle était horrifiée après quand elle lisait dans le journal qu'elle avait pu dire, par exemple, qu'elle faisait, elle avait confectionné ses rideaux. Je me souviens d'une entrevue dans le la revue Moderne qui va devenir Châtelaine en 61-62. Et donc, la journaliste l'interview. À ce moment-là, on vient de rééditer Le Torrent, le recueil de nouvelles Le Torrent, qui avait paru en 50, qui a été repris. Il y avait eu les Chambres de Bois, elle avait eu le prix France-Canada. Donc, elle était déjà entourée d'une certaine notoriété. On fait un grand portrait d'elle. Elle est à la une du magazine. Puis, c'est un portrait, comme on dit aujourd'hui, personnalité. Donc, on l'interview. Puis là, elle raconte des choses. Elle raconte cette histoire de rideau, par exemple, que chaque jour, même si elle travaille, elle prend la peine de se poser le couvert, l'assiette, le couteau, la fourchette. Après, elle dira dans des lettres, notamment à Claude Lourcubise, que c'est effrayant, c'est des détails triviaux, qu'elle ne voulait pas ce genre de choses. Donc après, elle sera beaucoup plus réservée dans ses commentaires, ce qui fait que les éléments biographiques qui existent sur elle, qui étaient déjà publics au moment où j'ai commencé ce travail, ben, ce sont toujours les mêmes. Le père à Québec, le père critique littéraire, Sainte-Catherine, une enfance heureuse, la nature, le cousin Saint-Denis Garneau. Bon, vous voyez, et donc on tourne facilement en rond. Et le travail de du biographe, à mon avis, et c'est pour ça que ça s'appelle une biographie, récit de vie, hein, littéralement, c'est d'amener le propos à un palier supérieur où on aura une connaissance plus fine de la personne, pas pour fouiller dans ses papiers spécifiquement, mais simplement parce qu'étant donné l'importance d'Anne Hébert, l'importance de son œuvre, tôt ou tard, la biographie s'impose comme un accompagnement de l'œuvre. Et c'est dans cet état d'esprit que je travaillais. Donc après, il y a des résistances à vaincre, mes propres scrupules, parce que moi-même, je comprends très bien qu'on veuille ne pas raconter sa vie. Et donc, je devais surmonter mes propres scrupules, les gens aussi de son entourage. Mais tout ça se faisait avec du temps, avec du respect. Il y a quelques mots-clés comme ça, des respects, patience. Je ne forçais aucune confidence. Je laissais les gens me dire ce qu'ils voulaient bien me dire. Bon, puis peu à peu, j'amassais des matériaux. Amasser des matériaux, on finit par avoir une masse documentaire, puis à un moment donné, on sent que le fruit est mûr, puis on peut commencer à écrire.
Et vous étiez donc déjà une grande admiratrice, une grande lectrice d'Anne Hébert au moment où vous avez commencé cette biographie. Est-ce que cette démarche a changé le regard que vous aviez sur elle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans ce que vous avez appris?
Ça n'a pas changé le regard admiratif que j'avais sur elle, ça, comme lectrice, là, comme... Il y a des choses qui m'ont étonnée en cours de route ou qui ont affiné le portrait. Par exemple, pour moi, Anne Hébert, elle représentait la quintessence de la culture française et de la langue française et de la francité. Enfin, on peut employer toutes sortes de mots de la même famille là, que le français ou la culture française. C'est vrai aussi, mais à faire ce travail... puis à lire et à relire l'œuvre, et puis à rencontrer des gens, puis à dépouiller des fonds d'archives, puis à lire des lettres aussi. Les lettres n'étaient pas dans les archives à l'époque, elles étaient éparpillées un peu partout. Je voyais apparaître de plus en plus tout un substrat anglais dans son œuvre. C'était là un peu en filigrane dans les Fous de Bassan, par exemple. Mais là, je voyais qu'à quel point... l'anglais, l'Angleterre, la culture anglaise, des lectures anglaises avaient influencé Anne Hébert. Puis j'apprenais sur le plan documentaire que, par exemple, à Québec, on le sait depuis la conquête anglaise, on savait que les Anglais, il y avait une garnison à Québec. Mais jusqu'au milieu des années, au début du 20e siècle, Québec a une population anglaise très, très importante, qui n'est pas majoritaire, mais qui n'est pas très loin du 50-50. Puis après, ça va se réduire constamment. Mais donc, il y a une présence anglaise à Québec. Et Anne Hébert, dans son enfance, a senti cette présence. Et puis par ses lectures, elle était Et c'est des lectures qui vont l'accompagner longtemps. Là. On l'a comparé aux sœurs Brontë, Virginia Woolf. Donc, elle a beaucoup lu toutes sortes de lectures, toutes sortes d'influences, une boulimique. Mais donc, cette dimension-là anglaise, c'était une facette de son œuvre et de son histoire qui n'apparaissait pas d'emblée. Et puis, un autre élément qui m'a aussi étonnée, ça c'est sur le plan privé, mais c'est en même temps, ça m'a agréablement étonnée. Anne Hébert, je l'ai dit tantôt, représentait pour moi l'absolu, c'est-à-dire un désir d'absolu. Et puis c'est vrai qu'à étudier son œuvre, je voyais bien qu'elle a organisé toute sa vie sur écrire. Comment je ferais pour écrire? Et elle le dit elle-même, il y avait quelque chose de sacerdotal dans sa vision. Donc du coup, certains sacrifices. Sacrifice de la maternité, sacrifice du mariage, parce qu'elle sentait confusément, la biographie montre qu'elle aura deux fiancés dans sa jeunesse, elle va rompre ses fiançailles parce qu'elle sent confusément que si elle se laisse, s'abandonne à ses demandes, elle va se retrouver dans une voie toute tracée d'avance pour les femmes de son époque. Et elle, l'appel d'écrire était plus fort que tout, et écrire de manière professionnelle, pas comme un art d'agrément. Donc, chez elle, il y a eu des sacrifices, et ce qui m'a agréablement surpris, c'est que cette volonté farouche, cette détermination ne faisait pas d'elle quelqu'un de rigide pour autant. Parce que vers la fin de sa vie, elle aura des regrets. Elle se dira, peut-être que j'aurais dû avoir des enfants. Peut-être que j'aurais dû avoir une vie de couple, une vie plus conventionnelle. Puis elle a aspiré au mariage parce qu'elle aura une longue relation, une amitié amoureuse et un amour qui va durer 40 ans. Avec des hauts et des bas, là, comme il arrive dans tous les couples. Et donc, elle aura des regrets. Donc, c'est cet aspect-là, ce copie. Pour cet homme, par exemple, elle va apprendre à faire la cuisine, ou de gens, ces détails-là, disons, domestiques, me la rendent encore plus attachante parce que ça l'humanise, ça n'en fait pas quelqu'un de désincarné, un poète grave, vous voyez, qui remonte de l'abîme avec ses vers au point et puis qui écrit, pas du tout, c'est un être humain, c'est une évidence de le dire, mais il faut le rappeler parce que son parti pris de mettre l'œuvre devant elle pourrait faire oublier qu'elle était aussi une femme, un être de chair et d'émotions et d'affects. Et cette femme a eu la nostalgie, le regret de ne pas avoir eu d'enfant. Cette femme a eu la tentation domestique, la tentation d'un foyer. Alors, ça, tout ça, c'est des choses que je découvrais et qui me la rendaient attachante, mais qui m'étonnaient en même temps un peu.
Oui, justement, la biographie réussit vraiment à l'humaniser. On dirait que je suis aussi une grande actrice d'Anne Hébert, comme je suis sur tout le monde ici. Et on dirait que je ne m'étais jamais même questionnée tant que ça sur sa vie personnelle, parce que pour moi, c'était une artiste, c'était une écrivaine. On dirait qu'elle avait une espèce d'aura d'intouchable. Et la biographie montre, par exemple, quelque chose qui m'a surpris, c'est que ses premiers écrits dans la vingtaine étaient en fait assez naïfs. Ça fait du temps avant qu'elle développe cette écriture incroyable. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle soit restée presque, on dirait une petite fille jusqu'à presque 30 ans?
C'est l'enfance surprotégée qu'elle a eue. Par tempérament, c'était quelqu'un d'introspectif aussi, méditatif. Donc, c'était une enfant qui rêveuse, on dirait, pour faire court. Mais elle a été surprotégée dans sa famille. Et ça se comprend aussi par l'époque, et ça se comprend par son milieu, et ça se comprend par l'histoire familiale. Maurice Hébert a été un enfant, son père, donc, a été un enfant souffreteux, avec une constitution fragile. Donc, déjà, lui-même avait appris à vivre avec la maladie. Il aura un diagnostic de tuberculose dans la jeune vingtaine, alors qu'il est jeune marié. Parce qu'au moment de la Première Guerre mondiale en 14, quand la guerre est déclarée, il va s'enrôler volontaire. Il va vouloir et il va faire l'entraînement à Valcartier, qui est mis sur pied à ce moment-là comme camp militaire. Et il faut croire que les conditions de vie et d'hygiène n'étaient pas très douces. De toute façon, c'est l'armée n'était pas, c'était pas une colonie de vacances, puisqu'il en est, il a été réformé rapidement, puis il en est revenu avec cette tuberculose qu'il va traîner toute sa vie. Donc, la tuberculose, à l'époque, il faut savoir qu'on en mourait. Et donc, il y avait des sanatoriums qui étaient construits, puis on espérait se soigner et en guérir, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, il y a ça, du côté donc, du père, la maladie. Du côté de la mère, il y a aussi la maladie, mais la mort. La mortalité infantile est très élevée, même dans toutes les couches de la société, et même dans la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie qui est le milieu d'Anne Hébert. Juste pour vous donner un exemple, Madame Hébert, Marguerite Hébert, Marguerite Taché, épouse Hébert, son père et sa mère ont mis au monde 11 enfants. Et 3 seulement ont survécu, Marguerite et ses 2 sœurs. Et les autres sont morts, je mets dans la biographie à un moment donné, parce que moi, ça me bouleversait en fouillant dans les états civils, de voir ces noms et puis l'âge. Donc, tous dans la même famille, je ne me souviens plus de tous les noms, mais je les énumère à un moment donné. C'est comme une espèce de ronde funèbre d'enfants qui meurent. Et puis, il y en a un, c'est marqué anonyme. 24 heures, il a vécu 24 heures. On n'a même pas eu le temps de lui donner un nom. Les frères et les sœurs de Marguerite Hébert sont morts de toutes sortes de maladies. Madame Hébert avait un frère jumeau qui est mort à 15 ans. Donc, à 15 ans, on a le temps d'avoir un attachement très, très fort entre jumeaux. Donc, cette vision de la mort accompagnait, était dans cette famille. Et du coup, Anne Hébert a eu des maladies infantiles comme les enfants en ont, rougeole, etc. Elle a eu l'appendicite, là on s'est affolé, elle va mourir. Donc on la protégeait, on la surprotégeait. Il y avait un petit garçon dans cette famille, la famille Hébert, c'est 5 enfants, dont un petit Claude qui va mourir à 6 mois, qui naît avant Anne Hébert. Anne Hébert est surprotégée. Il naît après. Donc, Anne Hébert est surprotégée parce que là, on se dit il pourrait arriver la même chose. Donc, il y a une ambiance de surprotection qui, combinée à son tempérament rêveur et puis à son désir de solitude, de lecture, fait en sorte qu'elle se plaisait tout à fait dans cette famille, qu'elle n'avait pas du tout envie d'en sortir. Et qu'il faudra, elle-même aura un diagnostic de tuberculose, faux d'ailleurs, ça je le raconte dans la biographie, et on lui donne le choix, elle est dans la vingtaine à ce moment-là, et on lui donne le choix entre l'opération au poumon, on imagine, ou le grand repos. Elle choisit le grand repos. Donc le grand repos, c'est rester dans sa chambre à 20 ans, de 20 ans à 25 ans en gros. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter. Mais sur le coup, ce n'est pas vécu comme une punition. Elle lisait avant, elle continue de lire. Elle aimait rêver avant, elle continue de rêver. On l'entoure d'égards dans sa famille, on la dorlote. Elle a droit à un manteau de fourrure alors que sa sœur, c'est un manteau de drap. Bon, ce genre de détails, mais qui sont révélateurs en même temps. Mais c'est après quand, et donc pendant toutes ces années-là, cet enfant surprotégé fait en sorte qu'elle n'est pas exposée à ce qu'on appelle très, peut-être vulgairement, les réalités de la vie. Elle n'est pas, la rumeur du monde extérieur lui parvient de manière très diffuse, est toujours filtrée par la famille, et c'est toujours la petite Anne, même si elle a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, ses premiers textes sont très naïfs, parce que s'ajoute à ça aussi une éducation religieuse, comme il y en avait à l'époque, c'était la norme. Des poèmes à la Sainte Vierge, des poèmes sur des sujets, Thérèse de Lisieux, toutes sortes de sujets comme ça, et une approche naïve aussi, ça va durer longtemps. Moi, ce qui m'a frappé en faisant ce travail, quand je regardais les dates, je me disais, oh mon Dieu, mais elle a, quand elle publie Kamouraska, ben, elle a 50 ans. Alors qu'on l'imagine toujours en éternelle jeune fille.
J'ai l'impression que les photos aussi contribuent à ça. On dirait qu'on voit tout le temps elle à 35 ans.
Bien sûr, parce qu'elle est très belle aussi. Puis elle aura longtemps une jeunesse physiquement, de cœur, mais physique et d'esprit aussi. Elle aimait beaucoup la compagnie des jeunes gens. Qui vont, cette apparence-là, cette lumière qui émanait d'elle, cette aura, disent ceux qui l'ont connue,
font en sorte que longtemps, elle aura cette, on aura d'elle une image de jeunesse qui n'était plus vraie sur le plan chronologique, mais qui était toujours vraie sur le plan spirituel, psychologique, etc.
Et moi, en quelle année qu'elle est née?
Elle est née en 1916, puis elle meurt en 2000. Donc, quand elle arrive à Paris... Elle a publié trois livres à ce moment-là. Elle est une débutante à toutes fins utiles. Mais elle a 37 ans. Et c'est la première, une des premières fois où elle... D'abord, c'est la première fois qu'elle traverse l'Atlantique, ça c'est sûr. Mais c'est une des premières fois où elle s'aventure au-delà d'un certain cercle. Elle avait accompagné son père en Louisiane. Maurice Hébert était, à un moment donné, directeur du bureau du tourisme à Québec, ce qui est un peu l'équivalent du ministère de la Culture aujourd'hui, mais à Québec. Donc, il accueillait des dignitaires étrangers ou il représentait le gouvernement québécois dans des déplacements. Et donc, il y avait eu, à un moment donné, un anniversaire pour Cavelier de la Salle. Et donc, en Louisiane, il y avait des festivités, parce que la Louisiane, c'est un fait francophone important. Maurice Hébert s'était fait accompagner par Anne Hébert, sa jeune Anne. Là, elle était sortie un peu, mais elle était avec son père tout le temps. Ce qui fait que très tard, jusqu'à un âge avancé, la trentaine avancée, elle est encore dans sa famille, 35 ans, 36 ans, et elle ne veut pas en sortir. Elle veut rester. Elle fait des petits sketchs à la radio. Pour elle, ce n'est pas un but forcément de s'émanciper. Or, sur le plan de la littérature, il fallait aussi qu'elle s'émancipe pour écrire autre chose que ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent.
Et justement, cette relation avec sa famille est vraiment intéressante dans la biographie et éclaire son œuvre d'une belle façon. Bon, entre autres, on voit qu'elle tire quelques faits de fiction du roman historique familial, disons.
Oui.
Mais aussi, c'est une famille qui est assez littéraire. Marcel Hébert, quand même, écrit des poèmes.
Maurice Hébert,
et évidemment, c'est la cousine de Hector de Savigny-Garneau. Donc, comment est-ce que ces relations l'ont influencé dans sa vie littéraire à elle?
Ben, c'est sûr que très tôt, elle a grandi avec les livres, avec la... Non pas qu'il y ait des livres comme il peut y en avoir ici, là, dans cette maison. J'ai posé la question à Pierre Hébert, est-ce qu'il y avait beaucoup de livres dans la maison? Il y avait des livres, mais on n'était pas avec des murs couverts de rayonnage. Mais l'éducation, à l'époque aussi, était beaucoup plus littéraire qu'elle ne l'est maintenant. Et dans la culture générale, ce qu'on appelle la culture générale, les livres étaient importants. Les livres, la littérature, le théâtre, c'était des éléments importants. Maurice Hébert était critique littéraire. Il travaillait au gouvernement avant d'être le directeur du bureau de tourisme. Ça va arriver au début des années 50. Il va être rédacteur de discours. Enfin, c'est un fonctionnaire d'un certain niveau intermédiaire. Et donc, parallèlement à sa vie de fonctionnaire qui fait bouillir la marmite, il écrit des poèmes et il écrit des critiques. Il collabore à différentes revues, à des publications. Donc, par son père, elle connaissait la vie littéraire. Elle était très tôt en contact avec cette réalité-là de la vie culturelle, cette composante-là de la vie culturelle qui est la vie littéraire. Donc, ayant baigné dans cette atmosphère livresque, on va dire, c'était tout naturellement qu'elle a pu sentir chez elle très tôt des dons. Et puis à partir de là, de vouloir écrire. Et son père l'a encouragé, ça, elle l'a dit à plusieurs reprises. Ça faisait partie des choses qu'elle disait publiquement. Elle ne parlait pas de l'enfant surprotégé, parce que ça aurait eu l'air de faire un procès à ses parents, ce qu'elle ne voulait pas faire. Mais elle disait que son père l'avait très tôt encouragée à écrire, puis il était fier, puis comme un père ou une mère peut l'être devant les écrits de ses enfants.
Il regardait même ses poèmes dans son portefeuille, puis il les montrait aux gens qu'il rencontrait.
C'est lui qui lui a ouvert des portes pour certaines publications, dans certaines revues. La revue des Dominicains, il connaissait le directeur, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les revues religieuses avaient toutes des pages littéraires substantielles et presque indépendantes là, de, du reste du contenu. Donc, qui accueillait des nouvelles, des poèmes. J'ai parlé tantôt de Chapelaine, qui était la revue moderne avant. Dans cette revue, qui était une revue généraliste, grand public, il y avait toujours une longue nouvelle d'un auteur qu'on commandait et qui était plutôt bien payé à l'époque. Ça pouvait, en dollars d'aujourd'hui, j'ai fait le calcul, c'était 800, 1000 dollars. Ça fait rêver qu'on commande à des auteurs. Donc, la littérature était importante dans la société, plus importante, en tout cas dans la formation des jeunes gens, dans la formation de l'individu, dans la culture générale. Donc, Anne Hébert, très tôt, a été encouragée dans cette voie, combinée à ses dons. Maurice Hébert lui ouvrant des portes. À partir de là, elle a voulu continuer. C'était un appel très, très fort chez elle. Mais elle a voulu aussi, elle a senti le besoin de faire un pas de côté par rapport à son père. Parce que l'esthétique de Maurice Hébert, c'était d'ailleurs les poèmes qu'il va écrire toute sa vie. C'est un cycle de poèmes là, qui s'appelle « Le Don Juan ». Il ne le publiera jamais. Donc, il y a quelque chose de la vie d'écrivain empêchée chez Maurice Hébert que Anne Hébert va réaliser. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça se produira pour l'écrivain Colette en France. Son père avait des velléités d'écriture. C'est Colette qui va devenir la grande femme écrivain. Virginia Woolf. Son père était un scholar, comme on dit en anglais. Il était un universitaire. Il avait écrit des biographies, Leslie Stephen. Mais il aspirait à la littérature. C'est pas lui qui va devenir écrivain. C'est sa fille qui va devenir écrivain. Donc, Anne Hébert suit aussi ce schéma-là, sans l'avoir cherché, là, de réaliser les rêves ou les ambitions littéraires du père. Et ça, c'est la qualité de ce milieu aussi, de ce milieu que d'avoir favorisé ce filon-là, on va dire, ce filon littéraire.
Oui, alors que comme femme à cette époque-là, elle aurait très bien pu être empêchée un peu par sa famille d'avoir des aspirations littéraires si grandes, de vouloir faire seulement ça de sa vie. Ben,
oui, il y a une partie de sa famille qui se faisait l'écho de l'époque.
Ouais, comme sa tante religieuse.
Sa tante religieuse, et puis d'autres tantes aussi qui disaient, bon, ben c'est beau, un beau, elle le dit à un moment donné, c'est un beau petit hobby que vous avez là, c'est très bien, continuez, bon, mais surtout ne nous dérangez pas, n'essayez pas d'en vivre, n'essayez pas de gagner votre vie, c'est pas raisonnable, et puis pourquoi ne pas avoir d'enfants, pourquoi cette vie différente alors, et cette exigence de tous les instants. Alors, Anne Hébert ne voulait pas de ça. À l'époque, pour les jeunes femmes, il y avait les arts d'agrément qu'on enseignait aux jeunes. Le piano, on pouvait apprendre le piano. On devait, même si on avait un peu d'éducation, savoir jouer du piano. Mais être pianiste, c'est autre chose. Même chose pour écrire. On pouvait tenir son journal intime, on pouvait même écrire des poèmes. Mais vouloir vivre de sa plume, en faire quelque chose de volontaires et de professionnels, ça c'est autre chose. La peinture, c'est la même chose. On pouvait peindre des jolies fleurs, des jolies natures mortes, mais être peinte, c'était autre chose. Mais cela dit, à l'époque d'Anne Hébert, donc même avec cet esprit de l'époque qui pesait sur les destinées des femmes, il y avait autour d'elle, moi c'est ce que j'ai vu, autour d'elle et dans la société québécoise, des femmes qui ne voulaient pas de ce genre de vie. Et on les appelait d'ailleurs des femmes émancipées, au sens où elles n'attendaient pas d'un mari pour gagner leur vie. Elles pouvaient subvenir à leurs besoins par elles-mêmes. Donc Anne Hébert avait quelques exemples sous les yeux. Ses amies proches auront toutes, Jeanne Lapointe, grande intellectuelle, fera carrière à l'Université Laval. Monique Bosco, même chose. André Desautels, musicologue. Donc, il y a des exemples de femmes. Gertrude Lemoine qui était l'ancienne petite amie de Saint-Denis Garneau, en passant. Et puis, Jean Lemoine, qui était un grand ami de Saint-Denis Garneau, elle s'appelait Gertrude Hodge. Donc, il lui a piqué, on va dire. Ils se sont mariés. Et donc, Saint-Denis Garneau disait, parce que Saint-Denis Garneau avait aussi l'esprit de son temps, tout grand poète qu'il soit, il disait que Gertrude Hodge était la seule femme avec qui il pouvait discuter d'égal à égal. Donc, ça en dit long aussi sur la mentalité, mais c'est de la misogynie des collèges, je ne sais pas. Et donc, Anne Hébert avait sous les yeux quelques exemples de femmes qui choisissaient une autre vie. Et elle a choisi une autre vie, a voulu, encore une fois, être écrivaine de manière professionnelle et non pas comme un art d'agrément. Et d'où le titre de cette biographie, « Vivre pour écrire ». Comment organiser toute sa vie vers ce but, vers cette coïncidence avec sa nature profonde qui est celle d'un écrivain.
Vous avez parlé de ses amis qui sont très importants pour Anne Hébert. J'ai l'impression que non, elle ne s'est pas mariée, mais elle a eu des amitiés très intenses avec des femmes qui, en fait, jouent un peu le rôle de partenaire, de compagne pour elle, dans le sens où elle prenait soin d'elle vraiment. Et quand elle revenait, elle pouvait habiter, par exemple, chez Monique Bosco. Ses amis l'aidaient beaucoup aussi à se détacher un peu de sa famille. Donc, si vous pourriez nous parler un peu plus de ses amitiés très importantes.
Oui, Anne Hébert est fidèle en amitié. Hein?
Amitié sur 40 ans.
Sur 40 ans, Jeanne Lapointe, elle se connaissent toutes les deux dans les années 30. Et puis, elles sont toutes les deux de Québec, mais elles ne se connaissent, elles étaient voisines à une rue près. Mais elles se sont connues à Montréal à l'époque où Anne Hébert commençait un peu à sortir, à avoir une vie sociale en dehors de sa famille. Et donc, oui, les amis, c'est très important pour elle. Il y a des amitiés féminines, ce que j'appelle, moi, la garde rapprochée. Donc, Jeanne Lapointe, Monique Bosco, André Desautels, Gertrude Lemoine. Ça, c'est des femmes qui... Suzanne Lemoine-Rivard, qui sera la deuxième madame... Jean Lemoine, ça c'est des amis proches. Il y a des amitiés masculines aussi importantes. Jean Lemoine en est une amitié de toute une vie. Claude Urtubise, ça c'est des amis. Au départ c'était des amis de Saint-Denis-Garneau. Ils se sont intéressés parce qu'il y avait une proximité géographique à Sainte-Catherine. Le manoir était où vivait Saint-Denis-Garneau. Ben, on traverse la non pas une rue, mais à l'époque, c'était un chemin. On traverse le chemin et on arrive à la maison de campagne des Hébert. Donc, Anne, la petite Anne, allait régulièrement au manoir aussi. Donc, ses amitiés masculines sont là. Avec Roger Mam, amitié amoureuse, enfin, qui va connaître plusieurs phases, c'est 40 ans, c'est toute une vie aussi. Donc, l'amitié est importante. Puis après, il y aura un deuxième cercle d'amitié par Monique Bosco, là, une autre génération d'amis. Mais le premier cercle, loin d'être sacrifié, il sera consolidé toute sa vie. Donc, ces femmes-là s'aident, vivent en étroite, pas communauté, mais en tout cas de connivence. Il y a une connivence chez elles. C'est Naïm Catan qui, à un moment donné, me faisait remarquer. Ces femmes-là sont toutes belles. Les photos le montrent. Elles étaient toutes célibataires. Elles étaient toutes fortes, avec des forts tempéraments. Dit Naïm Catan, ça pouvait effrayer les hommes de son temps qui ne savaient pas quoi leur dire aussi, qui étaient un peu embarrassés. Donc, ces femmes-là, oui, l'amitié est importante. En France, avec Roger Mam, elle va entrer dans un milieu français, un milieu culturel. Mavis Galant est une amie importante aussi. Donc, c'est du soutien, c'est une fidélité, voilà ce qu'apporte l'amitié. Dans le cas de Jeanne Lapointe, c'est un roc. Parce que Anne Hébert a été sujette aussi à des dépressions, la biographie le raconte, et c'est Jeanne Lapointe qui était le roc qui l'allait. Quand sa sœur Marie va mourir, ça va être un drame, mais un drame, plus qu'un drame. Elle était jeune mariée, et puis encore là, mauvais diagnostic. Donc, Marie, qu'elle s'appelle la sœur d'Anne Hébert, elle est jeune mariée, elle est enceinte, elle vient visiter sa famille à Sainte-Catherine. Elle dit « Oh, j'ai mal au ventre ». Et puis, on fait venir le médecin. Le médecin dit « Oh, c'est des fièvres l'été, etc. » 2 heures plus tard, elle est morte. Alors, c'était une occlusion intestinale. Donc, mauvais diagnostic, encore une fois. Alors, vous imaginez la stupeur et la tragédie que ça a pu représenter. Puis avant ça, il y avait eu la mort de Saint-Denis-Garneau. Donc, Et Anne Hébert, sensible, un écrivain, c'est quelqu'un, moi je compare souvent l'écrivain à un insecte avec des antennes, il capte toutes sortes de choses. Il vibre à son environnement, à son milieu, à ce qu'il ressent lui-même. Donc Anne Hébert était sujette à des dépressions et Jeanne Lapointe l'aidait. Monique Bosco l'a aussi aidé, chacune à sa manière, et dans certains cas financièrement. C'est vrai pour Roger Mam, c'est vrai pour Jeanne Lapointe. Monique Bosco pouvait payer un billet d'avion pour venir de Paris à Montréal, passer Noël à Montréal. Bon, ce genre de choses, parce que Monique Bosco faisait carrière à l'Université de Montréal. Anne Hébert vivait dans une précarité voulue, une précarité financière voulue, une incertitude. Mais c'était le prix à payer pour écrire ce qu'elle voulait faire.
Le rapport à la France est aussi très intéressant dans la biographie. Avant de la lire, j'avais des idées de pourquoi elle s'était fait dite en France, qui finalement ne s'avère pas nécessairement être vraie. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ça.
Oui. Donc, elle arrive en France la première fois, c'est en 1954. Et puis, elle a une bourse. Elle, jusqu'alors, elle est un peu émancipée de sa famille. Elle est en voie d'eux, on va dire. Elle travaille à l'ONF, elle écrit des commentaires de films. Elle n'est pas scénariste, mais elle écrit des commentaires de films, des petits documentaires, là, comme il y en avait. Elle demande une bourse. La première fois, la bourse est refusée. La deuxième fois, elle l'obtient. Donc, elle part pour Paris. À l'époque, c'était vraiment dans la formation de tout écrivain, de tout intellectuel, de tout artiste, le passage par Paris était fondamental. C'est un phare. Oui, bien sûr. Et donc, elle y va. La bourse devait durer un an. Ses qualités, ses vertus économes, celles qui faisaient confectionner ses rideaux, rappelez-vous, font le reste et elle peut vivre 3 ans avec la bourse. Quand elle revient, elle est une femme différente. Elle est transformée. Elle a plus d'assurance. Et là, elle revient non pas à Québec, mais à Montréal. Et elle va faire des allers-retours avec la France jusqu'à la mort de sa mère. Son père meurt en 1960. Sa mère meurt en 1965. Donc, entre 57, quand elle revient, et 65, elle va faire des allers-retours. Elle va, une bourse, je repars. Bon, et puis c'est constant. Donc, la France est très importante. Elle est pétrie de culture française. Ses lectures sont françaises. Paris et Québec, c'est une culture française, c'est une ville historique et de culture française, même s'il y a la composante anglaise que j'ai dit tout à l'heure. Donc, elle sent une adéquation entre le Paris des années 50-60 qu'elle découvre et Québec et son milieu. Donc, elle s'y plaît au début. Elle se sent bien sûr différente. Elle dira qu'elle se sentait un peu sauvage. Mais elle s'y plaît et ce n'est pas, elle s'y plaît non pas sur le plan, j'allais dire, du milieu littéraire, parce que elle n'est pas mondaine. Elle ira à des cocktails, par exemple, des éditions du Seuil, qui avaient cette tradition. Chaque jeudi soir, on prenait un pot aux éditions du Seuil, les auteurs et le patron. C'était quelque chose d'amical. Il y avait un esprit de famille dans les maisons d'édition à l'époque qui était plus fort encore que maintenant. Mais les lancements, non, ça elle ne le faisait pas. Elle écrivait, elle était chez elle, dans son petit appartement, son petit meublé. Puis elle s'imprégnait, elle avait une distance par rapport à ce qu'elle racontait, par rapport à Québec, par rapport à sa famille, par rapport à ses souvenirs. Elle avait vraiment tourné le dos à toute cette ambiance mortifère qu'on a évoquée tout à l'heure pour être du côté de la vie. Elle le dit dans une lettre à sa mère. Je voudrais maintenant, j'ai écrit Le Torrent, puis j'ai écrit des poèmes, Le Tombeau des Rois, qui étaient tournés vers la mort. Je voudrais maintenant écrire des choses tournées vers la vie. Et je sens que c'est en France que je vais les écrire. Donc, voilà l'importance de la France pour elle. Puis après, elle a laissé, comme elle dit, pousser des racines. Elle se plaisait. Elle n'a jamais pris la nationalité française. Elle n'a jamais, d'ailleurs, c'est assez fascinant à observer. Ça veut dire que c'est révélateur de l'époque. Elle n'a jamais... vers la fin, elle a dû demander un visa, mais sinon, elle était avec son passeport, pas de carte de séjour, etc. Jusqu'à un moment donné où, dans les années 80, sous Pasqua, on a resserré les contrôles. Puis là, elle a dû demander un visa, justement, puis un permis de séjour. avec une carte de séjour, se mettre en règle, autrement dit. Donc, autrement, c'était simplement comme on prend l'avion, j'arrive, je m'installe, je sous-loue un appartement, puis un studio, puis je repars. Puis, donc, il y avait une légèreté aussi en France qu'elle trouvait, mais ce n'était pas parce qu'elle était ici, comme on a pu le dire, et elle-même a pu le dire, parce qu'on lui refusait ses poèmes ou ses écrits ici où elle suscitait de l'incompréhension. Pas du tout. Si elle a été refusée à une époque, et c'est là que le fait d'être éditrice m'a donné un atout, c'est-à-dire pour comprendre un peu l'histoire de l'édition et des rapports. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'édition canadienne-française est sinistrée. À peu près 90% des éditeurs ont déclaré faillite. Et pour des raisons que je peux vous dire en 30 secondes, c'est-à-dire que durant la guerre, la France était occupée. Les éditeurs français qui ne voulaient pas passer, certains ont choisi de collaborer avec les Allemands, l'occupant nazi. Et donc là, ils devaient obtenir du papier, ils devaient obtenir toutes sortes d'autorisations. Il y avait des listes d'auteurs. Évidemment, les auteurs juifs étaient bannis. Bon, d'autres n'ont pas voulu collaborer. Et ceux qui n'ont pas voulu collaborer, parmi les éditeurs, faisaient en sorte qu'ils avaient mis en place un système où les droits étaient cédés à des maisons provisoirement, à des maisons d'édition qui pouvaient exploiter ces droits. Saint-Exupéry a été publié à New York. Le Petit Prince, à l'origine, c'est à New York. Et puis il y en a d'autres comme ça, Bernanos, bon. Donc il y a en Suisse notamment, la Suisse étant neutre, il y a des maisons d'édition qui ont pris le relais. Puis ici, au Canada, à Montréal notamment, parce que c'est là qu'étaient les maisons d'édition montréalaises. Et ça a été le pactole. Ça a été le pactole parce que pour ces maisons d'édition-là, publier Mauriac, Bernanos, dans des tirages où ils étaient diffusés partout dans le monde, parce qu'il y avait une diaspora aussi de Français qui avaient fui la France, ça représentait des tirages faramineux, les éditions Bernard Valiquette, enfin, il y en avait plusieurs. Après la guerre, et tout ça, c'était en toute légalité. Les droits étaient mis sous ces caisses ou dans une fiducie et reversés après aux auteurs. Mais après la guerre, les éditeurs français ont repris leur bille, vous pensez bien. Et donc là, faillite pour plusieurs éditeurs canadiens qui n'avaient pas eu la précaution d'avoir un catalogue élargi à des auteurs canadiens. Il y avait des maisons d'édition établies de plus longue date, Fidesz, Beauchemin, qui avaient déjà un catalogue canadien, donc qui ont continué de le diversifier. Mais d'autres maisons d'édition qui étaient nées de manière très circonstancielle pour se recueillir cette manne, on fait faillite. Donc, Anne Hébert, à ce moment-là, elle arrive avec le torrent, le recueil de torrent, c'est en 1950. Donc, elle arrive en 48-49, elle a publié ces nouvelles-là dans des revues sans problème, sans que ça choque personne. Donc, c'est pas vrai qu'il y avait une résistance par rapport à ce qu'elle écrivait sur le plan moral. Et quand il s'agit d'en faire un recueil, ben là, elle a frappé à quelques portes. Je le montre dans la biographie. J'ai recensé où elle a pu aller. C'était non, parce que les éditeurs étaient en faillite. Même chose pour le poème, le recueil de poèmes du Tombeau des Rois. Tous les poèmes avaient paru en revue. Quand c'est le moment d'en faire un recueil, et puis de la poésie, vous pensez bien. Donc, on n'a pas dit non dans certains cas. On a juste dit « ça sera dans 2 ans ». Mais elle ne pouvait pas attendre. Puis un auteur, de toute façon, ne veut pas savoir l'état de l'édition au moment où il demande à publier son livre. Il veut juste savoir est-ce qu'il va paraître, oui ou non. Et donc, c'est de bonne foi qu'Anne Hébert disait, quand j'ai voulu publier après le torrent, partout on me disait non, non, non. Mais dans les faits, c'est parce qu'il y avait des circonstances. Donc, du coup, c'est le seuil qui va, avec le premier roman, là, les Chambres de bois, va la publier parce que c'est associé à ce prix qu'il y a une publication aux éditions de Seuil. C'est un prix décerné sur manuscrit. Et puis après, comme elle est fidèle, elle va rester.
Et elle a un contrat de toute façon à honorer. Elle doit publier, je pense, 3 ou 5 livres avec elle.
À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le droit de suite. Ouais. Donc, même à une époque, le droit de suite pouvait aller jusqu'à 14 titres. Donc, un auteur se livrait pieds et poings liés à son éditeur. Ce n'est plus le cas maintenant. Mais à l'époque où Anne Hébert publie, il y avait encore un droit de suite. Donc, l'auteur s'engage à soumettre à ce même éditeur les trois prochains manuscrits, mettons, ou les cinq prochains manuscrits, ce qui se comprend parce qu'il y a un investissement aussi de la part de l'éditeur. Et donc, elle est restée fidèle, mais à ce moment-là aussi, l'édition au Québec avait changé. Elle s'était professionnalisée. Il y avait des éditeurs dans les années 70, 80, et puis les années 70, c'est des années très nationalistes. Donc là, à une certaine époque, on pouvait dire « Ouais, mais pourquoi vous continuez de publier à Paris? Vous pourriez publier ici? » Puis là, on lui faisait un grief de cette publication. Alors que c'était de la fidélité, c'était un enchaînement de circonstances. Puis dans le cas d'Anne Hébert, elle a contribué à installer cette légende noire des débuts qui ne résiste pas à l'examen des faits, puisqu'elle a eu très tôt des prix, elle a eu très tôt des bourses, elle avait des contrats avec Radio-Canada, l'ONF, elle faisait partie de jurys. Dans les années 50, fin des années 50, 60, quand les chambres de bois apparaissent en 58, c'est salué par la critique. Donc, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas compris son œuvre et qu'on ne l'a pas accueillie.
Elle avait aussi une très belle couverture médiatique, des très belles critiques.
Chaque livre, après, était suivi.
Plus qu'en France, même.
Oui, beaucoup plus qu'en France. Et les ventes étaient beaucoup plus élevées ici qu'en France. Ça, c'est une réalité que devrait méditer tout auteur québécois publié à Paris. Il va vendre surtout ici au Québec et en France très peu. C'est une loi du genre, c'est une loi des marchés naturels.
J'ai encore plein de questions, mais le temps file et j'aimerais vous laisser la chance à nos auditeurs d'en poser. Donc, est-ce que certaines personnes auraient des questions?
On peut parler longtemps.
Hein, oui, il y a matière.
Il y a de quoi dire. Il y a de quoi... Alors,
quelle est votre œuvre favorite de l'animal?
J'aime beaucoup. Ben, j'en ai deux, en fait. J'aime beaucoup Kamouraska. J'oublie le tombeau des rois. Ah non? Ah, c'est le plus beau? Parce que je vois vos mains dire non, non, non. Elles disent oui, oui, oui. Oui, Kamouraska, j'aime beaucoup Kamouraska. Et puis, les fous de bassin. Pour Kamouraska, je trouve qu'il y a une vraie forme romanesque, il y a un souffle, il y a une construction qui force l'admiration, les voix, les multiples voix. Il y a une fièvre dans Kamouraska, que je ne parle pas du film, je parle du roman, moi qui me plaît beaucoup, et que quand je relis, pour moi, ça n'a pas pris une ride. C'est un roman qui contient en germe Kamouraska plusieurs romans à venir, parce qu'il y a des thèmes qui sont là, les thèmes de l'amour, les thèmes de l'appel de la liberté, toutes sortes de et puis de la nature, enfin il y a des éléments. Kamouraska contient en germe plusieurs romans à venir, et puis Les Fous de Bassan, parce que là je trouve qu'elle a su mêler une forme poétique et une forme romanesque de manière très harmonieuse et sans sacrifier, parce que parfois des romans dits poétiques, on se dit ouais, mais où est l'intrigue, où est ça raconte quoi? Dans le cas des Fous de Bassan, il y a une intrigue, il y a même une intrigue policière, enfin. Elle était partie d'un fait divers, hein, comme vous le savez. Mais il y a une forme, il y a un souci esthétique tel que c'est aussi un poème. Et Virginia Woolf disait d'ailleurs que le roman au 20e siècle, le roman moderne ou expérimental, comme elle le pratiquait, elle, c'était la poésie d'aujourd'hui, c'était la poésie de notre époque. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est mes deux sommets dans l'œuvre. Madame?
Moi, je viens de lire Les Enfants du Sabbat.
Oui.
Oh là 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 là, c'est d'une violence.
Oui.
C'est absolument. Je l'ai lu parce que c'était décidé dans mon club de lecture. Sinon, je ne suis pas certaine que je l'aurais lu. C'est vraiment violent.
Oui. Elle a dit qu'elle s'était beaucoup amusée en l'écrivant.
Ah, bon.
Donc, il faut le lire aussi, je pense, comme un pied de nez. Un pied de nez qu'elle fait à la religion, mais à la religion dans sa dimension sociale, parce qu'Anne Hébert est une grande lectrice de la Bible, par ailleurs. Hein. Oui, elle y a, dans son œuvre, pensez aux Fous de Bassan, il y a plein de citations bibliques. C'est vrai qu'il y a ce personnage du révérend, là, mais il reste qu'elle est une grande lectrice de la Bible qui le demeurera, même si à la fin, elle dira qu'elle a perdu la foi. On peut lire la Bible, de toute façon, sans avoir la foi. Mais pour ce qui est des Fous de Bassan, c'est vraiment un pied de nez à à la religion dans sa composante la plus sociale, la plus compromise de, dans l'époque, qui veut régenter les consciences, qui veut... et donc, c'est un pied de nez, c'est une moquerie. C'est un, mais c'est violent. Il y a des scènes d'inceste, il y a des scènes de... ça a dérouté ses éditeurs en France quand ils ont lu le manuscrit.
Elle est toujours présentée comme une femme un peu fragile,
oui.
Gentille. Là, tu lis ça, tu dis, mon Dieu, Chanel, c'est
ouais.
Incroyable.
Ouais. Les critiques ont beaucoup opposé justement cette douceur apparente d'Adélaire. En personne, elle avait l'air d'une femme très douce, très réservée, à la violence de son écriture. Dans tous ses livres, il y a quand même de la violence.
Bien assez, sûr, bien sûr. Le torrent, c'est un matricide. Hein? C'est un jeune homme qui tue sa mère parce que sa mère a décidé qu'il deviendrait un prêtre. Puis c'est une manière pour elle aussi de se mettre, de devenir honorable pour la société parce qu'elle a fauté, la grande Claudine, la mère de François. Ce contraste-là a été plusieurs fois souligné par la critique. Anne Hébert à ça répondait officiellement dans les entrevues. Mais vous savez, quand on y pense, il y a tellement de choses révoltantes dans le monde, etc. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le téléjournal du soir qui l'ait rendue violente. C'était aussi, ça c'est mon hypothèse de biographe, donc c'est une hypothèse, les 5 années où elle a vécu dans la chambre, là. C'était pas une métaphore, c'était vraiment dans sa chambre. Bon, même si à l'époque, je l'ai dit, ce n'était pas reçu comme une punition, il reste qu'après coup, quand elle est en France, dans les années 60, 63, avant la mort de sa mère, et ça, il y a une lettre en particulier que je cite dans la biographie, Madame Hébert, elle est veuve maintenant, elle a 2 fils, sa fille est morte, son autre fille, puis là, son aîné est en France, puis elle revient, mais jamais longtemps, puis elle repart. Donc, Madame Hébert aurait voulu, sûrement, parce qu'on n'a pas la lettre de Madame Hébert, mais elle aurait voulu qu'elle reste près d'elle, surtout que, je l'ai dit, famille surprotectrice. Donc, et Anne Hébert répond, oui, mais toutes ces années où j'ai été enfermée vive, toute vivante, dans cette chambre, j'en suis malgré, elle dit, là je vais paraphraser, mais il y a, dans certains cas, je cite pour vrai, malgré ma résignation toute chrétienne, c'est ce qu'elle dit à sa mère, j'en ai conçu un sentiment de révolte très très profond. Donc, mon hypothèse à moi, et là je veux vivre, dit-elle, j'ai le sentiment qu'ici il peut m'arriver des choses belles, des choses agréables, et que là-bas, si je retourne à Québec, ça sera, il ne peut que m'arriver du malheur. Et donc, mon hypothèse de biographe, c'est que ces années de réclusion l'a forcée, même si sur le coup n'ont pas été vécues comme une contrainte épouvantable, après coup deviennent, on l'a volé, on lui a volé 5 années de sa vie. Et à 20 ans, on a d'autres envies que de s'étendre sur son lit. Alors, du coup, il y a un décalage entre toute cette révolte à cette idée qu'elle a intériorisée, qu'elle a canalisée. Puis ça, c'est vraiment le processus créateur qui fait ça. Un écrivain, il capte des choses, comme je l'ai dit, puis il les transforme. C'est jamais un calque. Une biographie, personne ici n'aura la naïveté de croire que ce que je raconte de sa vie, c'est le reflet après, on en voit le reflet dans l'œuvre. C'est toujours, il y a toujours une distorsion, des détours, des transformations, de l'invention aussi. Alors, cette révolte, pour moi, elle naît dans la chambre, mais pas au moment où elle est dans la chambre, des années plus tard, au souvenir de la chambre. Et à partir de là, elle ne peut pas blâmer ses parents, leur faire un procès psychologique, on va dire, parce qu'elle est une fille aimante, mais elle sait bien qu'on lui a volé 5 années de sa vie. Et que c'est toute une société, tout un milieu, moins une société qu'un milieu, puis l'état de la médecine à l'époque, puis enfin toutes sortes de circonstances. Et donc, du coup, révolte profonde. Et violence. Violence de la révolte rentrée, vous voyez. Oui.
Bonjour. On sent quand même une culpabilité de sa part d'être loin de ses parents. Parce que le père est souvent malade. La mère, ce qu'on discerne dans ça, c'est une espèce de vie dirais, fragilité peut-être psychologique, une espèce de tristesse aussi que la mère semble porter. On a l'impression qu'elle est tout le temps confinée à sa maison, qu'elle n'a pas de vie en dehors de ça. Les deux frères sont un peu dysfonctionnels aussi. Alors, on sent dans la correspondance que même si elle a ce désir-là d'avoir une vie un peu éclatée en France, qu'il y a une culpabilité par rapport à cet éloignement-là de sa famille et des parents qu'elle devrait peut-être protéger en tant qu'aînée.
Oui, moi je crois que chez Anne Hébert, à Milsing, là, des lettres ou parce qu'une biographie, il y a un savoir livresque qu'on trouve dans les livres ou dans des documents écrits ou dans des entrevues qu'elle a pu donner, mais il y a un savoir non livresque qui est celui des témoins, des gens que j'ai pu interviewer. Donc, en croisant ces savoirs-là, plus les lettres, qui sont des lettres privées, moi, j'ai un portrait d'Anne Hébert que je pense avoir restitué dans la biographie et je la sens tiraillée entre les deux. Elle est une bonne fille, elle demeurera une fille aimante, elle demeurera jusqu'à la fin. Donc la révolte et puis régler des comptes avec la famille dans des romans puis sur la place publique, c'est pas son genre. Mais en même temps, elle sait qu'elle doit partir. Elle sait qu'il faut qu'elle mette une distance entre sa famille et elle. Et puis, ben là, l'âge est là. Madame Hébert, sa manière d'être, Madame Hébert, elle a eu... donc, Anne Hébert a eu sous les yeux, j'ai employé un mot, mais ce n'est pas le bon mot, le spectacle de sa mère qui s'est éteinte peu à peu. La vision de sa mère qui s'est éteinte peu à peu. Si vous regardez des photos de Marguerite Hébert jeune, c'est d'une beauté, elle est d'une beauté, elle est... Anne Hébert, d'ailleurs, tiens, c'est probablement sa beauté, sûrement sa beauté de son père et de sa mère, parce que Maurice Hébert aussi est un beau jeune homme. Les photos anciennes, là, sont... mais peu à peu, Madame Hébert, avec les grossesses, elle a eu 5 enfants, mais malade chaque fois, et puis une existence un peu impécunieuse avec ce mari qui n'arrivait pas à faire bouillir la marmite comme il l'aurait fallu. Elle venait d'un autre milieu, donc... peu à peu, elle s'est repliée, elle ne sortait plus, elle sortait une fois par semaine. Elle allait au cinéma à Québec avec un taxi qui l'emmenait au cinéma, qui la ramenait. Bon, Anne Hébert a grandi avec cette vision de sa mère qu'elle a voulu aussi, à qui elle ne songeait pas à reprocher d'être comme cela. C'était ce qu'elle était, mais elle n'en voulait pas pour elle. La pulsion de vie était plus forte. Ouais. Et cette pulsion de vie-là, elle devait se faire comme un poussin qui casse la coquille. Il faut casser quelque chose. Mais pas sur la place publique, pas sur la... et puis avec des remords. Alors, des remords qui sont là, mais qui font en sorte qu'elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour... elle demande à Pierre, oui, mais est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Elle reste seule toute la journée, mais à distance, ça ajoute aussi à l'inquiétude, ça. Ouais. Donc, c'est jamais une rupture. Pour Anne Hébert, c'est pas une rupture. Et ça explique aussi peut-être la violence après, parce que peut-être qu'elle aurait aimé, là, on spécule, hein, parce qu'il faut pas non plus, il faut bien savoir quand on spécule, puis quand on s'appuie sur les faits. Mais quand, on peut pas être dans la tête d'Anne Hébert, mais on peut être dans les lettres qu'elle a écrites, puis on peut être dans les propos qu'elle a tenus. Et puis, peut-être qu'une partie de la violence dont Madame parlait, et puis que d'autres ont souligné, venait du fait qu'elle ne s'autorisait pas la rébellion ouverte et la rupture totale, et de dire je romps avec cette famille, parce que ce n'est pas son tempérament et parce qu'elle aime encore cette famille. Mais elle sent en même temps que cette famille a quelque chose de toxique si elle y demeure trop longtemps. Alors, c'est une ambivalence, qui est une sorte de conflit intérieur, qui a sa part de violence, et le fait d'écrire pourra canaliser, transformer, et servira auquel l'écriture servira d'exutoire, peut-être, aussi. Mais Anne Hébert est tiraillée, ça, c'est sûr. Elle est tiraillée entre ses devoirs de fille aimante, qu'elle ne remet pas en question, et ses exigences d'écrivain, sur lesquelles elle ne peut pas céder. Alors, comment faire?
On va conclure la rencontre là-dessus. Merci vraiment beaucoup, Marie-André. C'était super intéressant, vraiment.
Merci à vous. Merci à vous. Vous aussi, on peut très bien.
Merci de votre écoute. On va installer une petite table de dédicace juste à côté si vous voulez venir rencontrer Madame La Montagne. Merci
beaucoup. Il faut lire ce livre-là. C'est vraiment un livre.
Le cœur. Merci.